Un bon nombre d'entre vous ont un jardin ou un champ. Et j'aimerais que vous me disiez ce que vous faites avec les pierres dans votre jardin. Les enfants, vous savez ce qu'on fait avec les pierres? On les arrose? En général, n'est-ce pas? On met les pierres de côté. Alors, pourquoi est-ce qu'on met les pierres de côté? Mais c'est parce qu'elles n'ont aucune vie en elles. Elles ne produisent rien. Et j'ai observé, même que maintenant, certains recouvrent des parties de leur jardin entières avec des pierres. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pour être sûr que rien ne pousse. Et ce matin, l'apôtre Pierre va se servir de pierre, ou d'une histoire de pierre avec un S, de caillou, pour attirer notre attention sur notre nouveau statut de chrétien dans ce monde. Vous vous souvenez que l'apôtre Pierre est en train d'écrire à des chrétiens qui sont dispersés à travers l'Empire romain, plus ou moins à la fin du 1er siècle, à un moment où la persécution contre les chrétiens est en train de commencer. Et il prépare ces chrétiens à faire face à ces temps difficiles. Il leur a rappelé d'abord qu'en tant que chrétiens, nous sommes des étrangers et des immigrants dans ce monde. Parce que notre destinée, notre citoyenneté est au ciel. Et le fait que nous soyons des étrangers et des immigrants va engendrer dans notre vie certaines difficultés, diverses luttes à cause de ce statut que nous avons. Et Pierre, avant de nous parler des difficultés que nous allons rencontrer, veut vraiment nous faire comprendre quel est notre statut de chrétien aux yeux de Dieu, afin de nous encourager. Parce que si on comprend ce que nous sommes dans la manière dont Dieu nous voit, alors ça va nous aider à faire face aux épreuves qui pourraient nous arriver. Et je vous ai dit que cette première épître de Pierre était une sorte de guide de voyage inspiré pour conduire les chrétiens dans leur pèlerinage en direction du ciel. Jusqu'ici, on a vu que, en fait, nous avons une assurance et une espérance qui est ferme. C'était au chapitre 1er, verset 3 et suivant. Et que même si les épreuves arrivent, verset 6 à 8, et le Seigneur nous façonne, nous transforme au travers des épreuves pour que notre foi soit fortifiée. Et nous avons vu à la fin du chapitre 1er, en fait, que nous avons à fixer nos yeux sur trois réalités particulières pour vivre d'une façon chrétienne dans le monde. Il faut regarder, considérer le caractère de Dieu, c'était chapitre 1er, verset 13 à 16, considérer le prix payé par Christ pour notre salut, c'était les versets 17 à 21, et considérer l'efficacité de la parole de Dieu pour transformer nos vies. C'était le verset 22 jusqu'à chapitre 2, verset 3. Maintenant, Pierre nous dit, chrétiens, considérez votre nouveau statut dans ce monde. C'est le titre pour ce matin. Et il commence en nous montrant une pierre vivante, qui est le fondement de l'Église. C'est le premier point. La pierre vivante, fondement de l'Église. Ici, vous voyez au verset 4, Pierre attire notre attention sur une pierre vivante dont il faut nous approcher. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Et franchement, est-ce qu'une une telle invitation ne vous semble pas complètement incohérente? Parce que qui d'entre nous a déjà vu une pierre vivante? Si vous êtes en train de randonner à la montagne, vous voyez ce qui vous semble être une pierre sur le sentier, ça commence à bouger, vous dites, c'est pas une pierre, c'est peut-être un serpent, un hérisson, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ce n'est pas une pierre. Parce qu'une pierre vivante, ça n'existe pas. Et si ça existe, alors ce n'est plus une pierre. Parce que par nature, vous voyez, une pierre est inerte et morte. Alors, pourquoi Pierre utilise-t-il une expression aussi bizarre? C'est parce qu'elle nous vient de l'Ancien Testament, qui annonçait à plusieurs reprises la venue du salut au moyen d'une pierre. Une pierre spéciale. Et je ne sais pas si vous avez fait attention dans les lectures tout à l'heure, mais on a déjà eu plusieurs lectures qui nous parlaient de cette pierre. Ésaïe 28, 16. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement au Sion une pierre. » Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Psaume 118, 22-23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et de qui s'agit-il? Quelle est cette pierre? L'apôtre Pierre l'avait bien compris. C'est pourquoi dans le texte qu'on a lu dans Actes chapitre 4, versets 11 et 10, il a pu, 11 et 12, pardon, il a pu dire aux pharisiens, c'est lui, Jésus, qui est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ainsi, vous voyez, il existe une pierre vivante, une seule. La pierre vivante dont Pierre parle ici, c'est Jésus-Christ. C'est une pierre vivante parce que Jésus est la source de la vie. Et parce qu'il a triomphé de la mort, parce qu'il est lui-même, comme il le dit, celui en qui se trouve la vie. Jean 5, 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il est la source de la vie. Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est Jésus qui parle. Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est une pierre vivante parce que Jésus est vivant. C'est une pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre qu'on posait dans la construction d'un édifice afin de déterminer toute l'orientation de l'édifice. C'est pour ça qu'on dit angulaire, la pierre de l'angle en fait. Parce que Jésus est le fondement de l'Église. Il est le fondement du rassemblement de tous les croyants. C'est sur lui qu'est construite l'Église. Éphésiens 2, 19 et 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Écoutez maintenant, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est une pierre choisie et précieuse, nous dit le verset 6, parce que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. et qu'il a choisi de toute éternité de le donner pour notre salut. C'est pourquoi déjà dans l'Ancien Testament, notre Dieu est décrit comme un roc, comme un rocher solide sur lequel nous pouvons construire notre vie avec une confiance totale. Ainsi, vous voyez, Christ est le fondement de notre foi et il est aussi le fondement de l'Église. C'est ce qu'il avait déclaré à Pierre après qu'il lui ait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus lui a répondu que c'était sur cette pierre, c'était sur cette déclaration de foi qu'il allait bâtir son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle, c'est-à-dire ne pourraient pas lui résister. C'est pourquoi Christ est le seul chemin qui puisse nous conduire vers Dieu. Parce que Christ seul est la pierre vivante par laquelle nous puissions recevoir la vie et être réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que Pierre nous apprend, l'apôtre Pierre nous apprend maintenant en nous montrant qui sont les pierres vivantes, les membres de l'Église, dans les versets 4 à 8 toujours. Dans ces versets, il nous apprend que qu'en ce qui concerne notre statut de chrétien, notre statut présent et éternel, tout est lié à ce que nous faisons de la pierre vivante, Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre commence en disant, verset 4, « Approchez-vous ». Approchez-vous, c'est un terme qui fait référence à la façon dont on rendait un culte à Dieu dans l'Ancien Testament. Pour rendre un culte, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait s'approcher de lui au moyen d'un rituel de sacrifice bien établi par Dieu lui-même. Ainsi, Pierre nous apprend que les vrais membres de l'Église sont ceux qui s'approchent du Christ dans un sens, comme on s'approchait de Dieu dans le temple de l'Ancien Testament, dans un acte de dépendance et d'adoration, conscient de notre culpabilité et de notre besoin qu'un sacrifice soit donné, offert pour nos péchés. Et Pierre nous dit ici que Christ donne la vie à tous ceux qui s'approchent de lui ainsi et qu'à leur tour, ils deviennent des pierres vivantes parce qu'il leur communique sa vie. Regardez versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante au singulier, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même comme des pierres vivantes, pluriel, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Pierre fait d'eux une fois qu'il leur a donné la vie? Qu'est-ce que Pierre fait de nous une fois qu'il nous a donné la vie? Ces versets nous disent qu'il nous édifie afin de former une maison spirituelle, un saint sacerdoce qui lui offre des victimes spirituelles agréables par Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire en français courant tout ça? Ça veut dire que Christ, par son action, fait de chacune des personnes qui s'approchent de lui une pierre vivante, un membre de son Église, et qu'il le place à côté d'autres auxquels il accorde le même privilège, la même grâce, et auxquels il confie ensemble la mission de porter des fruits spirituels qui glorifient Dieu. Et comment est-ce qu'on peut porter des fruits spirituels? Tout d'abord, en étant transformé intérieurement dans notre cœur par l'Esprit, afin qu'ensuite nos actes, nos paroles reflètent le caractère de plus en plus transformé, le caractère de Dieu qui agit en nous. Parce que c'est ça, vous voyez, le fruit de l'Esprit, selon Galates 5, 22, c'est d'abord une transformation intérieure dans notre cœur qui se manifeste dans une transformation extérieure. Écoutez, ce qu'est le fruit de l'Esprit, il est quoi? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et cette vie transformée par l'Esprit amènera, nous amènera à refléter le caractère de Dieu et l'Évangile autour de nous. Et ainsi, à voir d'autres personnes venir à la connaissance de l'Évangile. Et notez bien que pour bâtir cet édifice, Jésus se sert de pierres et pas de briques. Quelle est la différence entre des pierres et des briques? Si vous avez déjà fait un peu de construction, vous le savez très bien. Les briques sont toutes identiques. Et il est très facile de les aligner l'une à côté de l'autre pour faire un mur. Ça va même assez vite. Alors que les pierres sont toutes différentes. Et que pour les assembler correctement, ça nécessite tout un travail de puzzle presque, et de taille et d'ajustage. Et c'est exactement ce que Christ fait dans son Église, n'est-ce pas? Il nous place à côté de gens qui ont des coins qui se frottent aux nôtres. Et ça fait mal, ça blesse. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais parce que c'est comme ça que Dieu opère pour nous transformer et pour que nous devenions des victimes spirituelles, c'est-à-dire que nous grandissions petit à petit dans notre ressemblance à Jésus-Christ. Alors ne soyez pas surpris que la vie dans l'Église ne soit pas aussi facile que vous le souhaitez. C'est voulu par Dieu. Ne soyez pas surpris que les autres chrétiens soient si différents de vous et que parfois ils vous blessent ou ils vous déçoivent. Parce que c'est le moyen normal que Dieu utilise pour nous transformer et nous rendre plus semblables à Jésus-Christ. Est-ce que vous avez envie de devenir plus patient, moins colérique? Est-ce que vous priez, vous dites, « Seigneur, donne-moi la patience. » Et comment est-ce que Dieu va opérer cette transformation en vous? En plaçant à vos côtés, dans l'Église, dans la famille, des gens qui vous énervent. Parce que vous voyez, l'apprentissage de la patience ne peut pas s'apprendre comme ça dans les nuages. C'est quelque chose qui doit s'apprendre in situ, dans la vraie vie. Et ce n'est pas seulement vrai pour la patience, mais c'est vrai pour toutes les vertus chrétiennes. C'est pourquoi l'Église est tellement importante. Si vous voulez grandir spirituellement, vous avez besoin de frères et sœurs pécheurs à côté de vous. Vous avez besoin de l'Église locale. Alors je vous en supplie, ne la méprisez pas. C'est le moyen par lequel Dieu développe la sainteté dans votre vie, ici-bas. Car si chaque fois qu'un chrétien vous blesse ou vous déçoit, vous changez d'église, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous ne grandirez jamais. C'est toujours les autres le problème. Mais non, on est tous des pécheurs et on est en fait les deux parties du problème, c'est le péché le problème. Et on a besoin les uns des autres pour grandir. Et pour vous qui, jusqu'à aujourd'hui, n'êtes pas encore venus à Christ avec cette attitude de dépendance que je viens de décrire, venez à lui maintenant. Placez votre foi en lui. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Parce que regardez ce qui arrive à ceux qui rejettent cette pierre vivante. Versets 7 à 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, c'est-à-dire ceux qui rejettent cette pierre, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Cette pierre devient une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, c'est-à-dire cette pierre précieuse et vivante se transforme en pierre qui fait trébucher, spirituellement parlant. Et sans doute qu'ici, Pierre pense tout spécialement à la nation d'Israël et au chef du peuple qui avait rejeté Jésus-Christ malgré sa révélation extraordinaire. Mais en fait, cette description concerne tous ceux qui le rejettent. C'est pourquoi, pour savoir quelle est votre destinée éternelle ce matin, la seule question à vous poser, c'est qu'ai-je fait de cette pierre vivante? Qu'ai-je fait de Jésus-Christ? Est-ce que je l'ai rejeté? Est-ce que je l'ai mise de côté, comme les pierres de mon jardin? Ou est-ce que je l'ai embrassée? Et est-ce que je la chéris comme la seule pierre qui puisse me donner la vie et me maintenir en vie? Et je vous en supplie, ne restez pas dans le flou par rapport à cette question, à ce sujet. Si vous ne savez pas où vous en êtes, parlez avec le pasteur. Discutez avec un chrétien, parce qu'il en va de votre destinée éternelle. Qu'avez-vous fait de Jésus-Christ, de cette pierre vivante? Puis, après avoir dépeint l'état dramatique de ceux qui rejettent la pierre vivante, l'apôtre Pierre revient maintenant plus en détail sur le statut des pierres vivantes. Alors, c'est le troisième et dernier point de cette prédication. La nouvelle identité des pierres vivantes, des membres de l'Église. Si vous êtes approché du Christ, qu'est-ce que vous êtes? Comment Dieu vous voit-il? Il est très probable que, ayant compris que vous êtes étranger et immigrant dans ce monde, quand des difficultés arrivent, ça vous pousse au découragement. Et vous dites, oh là là, c'est pas possible, je suis un étranger, je suis un immigrant dans ce monde, je peux avoir que des catastrophes. D'un côté, c'est vrai, mais Pierre veut vous encourager. Il veut, par ces versets 8 à 10, vous montrer comment Dieu vous voit, en fait. Ce que Dieu a fait de vous qui êtes ses enfants maintenant. Et il nous décrit cette nouvelle identité avec des mots juste extraordinaires. Il y a de quoi être émerveillé. Écoutez ça. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple racheté. Quatre expressions qui décrivent la manière dont Dieu nous voit et dont nous devons nous considérer en tant qu'Église et que chrétiens. Je vais les reprendre l'une après l'autre, parce qu'il y a des expressions peut-être un peu hermétiques au premier abord. Vous êtes une race élue. C'est verset 9. Hein? Ou on pourrait traduire autrement, vous êtes un peuple choisi. Cette expression nous rappelle qu'on ne devient pas chrétien et membre de l'Église par un choix personnel, mais à cause du choix de Dieu. C'était déjà comme ça dans l'Ancien Testament, avec Israël, qui n'est pas devenu le peuple de Dieu par choix personnel ou à cause de ses mérites, mais parce que Dieu, dans un acte de grâce, avait choisi Israël pour témoigner de lui à toutes les nations du monde. Et pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël? Est-ce que c'était parce qu'il était un peuple particulièrement héroïque, particulièrement obéissant, parce qu'il avait une culture extrêmement développée? Non. Écoutez ce que Deutéronome 7, verset 6 nous dit. « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Dieu sait choisir le moindre de tous les peuples. Pourquoi? Mais pour que toute la gloire lui revienne à lui seul, et pas au mérite de ce peuple. Et comment Dieu a-t-il choisi les pierres qui forment son Église aujourd'hui? De la même manière, comme Paul l'enseigne dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29, il nous montre exactement le même principe qu'avec le choix du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Écoutez, « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde, merci Paul, hein, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Ainsi, chers frères et sœurs, si nous sommes membres de l'Église de Dieu aujourd'hui, nous n'avons aucun mérite à faire valoir. Car c'est par grâce que Dieu a fait de nous une race nouvelle. Et voyez, je pense que cette vérité doit avoir un impact sur notre manière de vivre dans notre famille, dans notre église, dans ce monde. Parce que si on n'a aucun mérite en nous-mêmes, cela doit nous aider à nous approcher des autres, des pécheurs qui nous entourent, quel que soit leur péché, avec humilité, avec compassion. Parce que si Dieu ne nous avait pas fait grâce, nous serions exactement comme eux, dans le même état qu'eux. Alors soyons connus comme une église qui accueille les pécheurs avec compassion, tendresse et amour. Et franchement, au vu de la dégradation morale rapide de notre société, il faut préparer nos cœurs afin qu'on soit capable de montrer de l'amour même aux pécheurs dont la tenue et les comportements nous repoussent le plus. Parce que c'est par amour que Dieu nous a choisis. Vous êtes une race élue, un peuple choisi par Dieu. Vous êtes un sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est un mot un peu compliqué peut-être, qui fait allusion en fait à la fonction du sacrificateur qui offrait les sacrifices dans l'Ancien Testament. Et quelle était la fonction du sacrificateur? Il avait une fonction de médiateur en fait. Il représentait Dieu devant le peuple et il représentait le peuple devant Dieu. Ainsi, le sacrificateur, en offrant les sacrifices et en accomplissant tout le rituel du culte, démontrait que la relation entre Dieu et l'homme était impossible sans un médiateur, un intermédiaire. Et qu'est-ce que Pierre nous dit ici ? Il nous dit que tous ceux qui sont approchés du Christ et qui sont devenus des pierres vivantes, ceux qui ont placé leur foi en Christ, sont désormais sacrificateurs. C'est-à-dire, ils ont un libre accès à Dieu. Comment ? Mais parce que Christ, la pierre vivante à laquelle nous sommes unis, est ce médiateur qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi, au moment de sa mort, le voile du temple s'est déchiré. Et cette expression va même plus loin, parce qu'il parle d'un sacerdoce royal. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'Ancien Testament, il était impossible qu'une seule personne cumule plusieurs fonctions. On ne pouvait pas être sacrificateur et roi, par exemple. Ceux qui ont voulu essayer sont tombés sous le jugement de Dieu. Saül a voulu offrir un sacrifice parce que Samuel avait du retard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été rejeté par Dieu. Le roi Ozias a voulu entrer dans le temple pour offrir un sacrifice à la place du sacrificateur. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est devenu lépreux jusqu'à la fin de sa vie. On ne pouvait pas être sacrificateur royal dans l'Ancien Testament. Soit on était roi, soit on était sacrificateur. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici ? C'est qu'en plus d'avoir ce libre accès à Dieu en étant des sacrificateurs, nous sommes rois. Quelle nouvelle incroyable pour des étrangers et des immigrants dans ce monde. Comment est-ce qu'on peut être roi ? On est roi parce qu'en fait, Christ partage avec nous sa royauté. Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a eu la victoire sur le diable, le mal, le péché, les puissances de ce monde. Et il partage cette réalité avec nous. Est-ce que vous voyez comment de telles vérités peuvent nous garder paisibles et joyeux lorsque le monde va mal, lorsqu'il nous opprime et nous méprise ? Il ne faut peut-être pas aller dire à votre chef, « Hé, mais moi je suis roi, tu n'as rien à me dire. » Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais on sait qu'aux yeux de Dieu, étant unis à Christ, on partage sa royauté. Ce sont de telles vérités qui doivent nous permettre de chanter, comme Paul et Silas, alors qu'ils avaient les fers aux pieds dans la prison à Philippe, et de résister lorsqu'on se trouve dans la tentation. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Qu'est-ce qui constitue une nation ? C'est une identité de nature, c'est un gouvernement central, c'est une constitution et des lois auxquelles les sujets se soumettent et s'identifient. Et lorsqu'il utilise le mot « sainte » ici, c'est sans doute pour souligner que l'Église est une nation unique, une nation particulière, une nation spéciale, mise à part pour Dieu. Est-ce que ce n'est pas vraiment le cas ? Réfléchissez. Qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui, ici ? Est-ce que c'est notre couleur de peau ? Est-ce que c'est notre âge ? Est-ce que c'est notre nationalité ? Est-ce que c'est notre langue ? Est-ce que c'est nos goûts culinaires ? Est-ce que c'est notre niveau de vie ? Est-ce que ce sont nos opinions politiques ? Non, rien de tout ça. Si on commençait à débattre certains sujets, on ne serait peut-être pas du tout d'accord les uns avec les autres. Alors, quelle est la seule chose qui nous rassemble vraiment? C'est Jésus-Christ. C'est que nous nous sommes approchés de lui. C'est qu'il a fait de toi, des pierres vivantes. Et que nous participons maintenant à un édifice commun. Vous voyez, sans Christ, vous seriez croisés dans la rue comme des inconnus. Ce qui n'est peut-être même pas dit bonjour. Et c'est ce qui fait de l'Église une nation unique. Parce qu'elle est un rassemblement complètement hétéroclite d'êtres de toute nation, de tout peuple, de toute langue, réunis en un seul peuple par son attachement à Jésus-Christ. Et c'est cette appartenance à Jésus-Christ qui fait que des êtres aussi différents de nous apprennent à s'aimer, à prendre du plaisir ensemble, malgré nos différences. Et aucune autre nation dans le monde entier n'a le droit de s'attribuer ce titre de nation sainte. Seule l'Église est une nation sainte. Et pour terminer, quatrième expression, alors, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes un peuple racheté. On pourrait aussi traduire, vous êtes une possession particulière. Parce que l'idée de rachat dans la Bible fait en général référence à ce qui se passait lorsqu'une personne achetait un esclave ou libérait un esclave. Elle payait le prix pour que l'esclave soit libéré de son ancien maître et qu'il devienne la propriété du nouveau maître. Ainsi, ce que cette dernière expression souligne, c'est que l'Église est la propriété de qui ? La propriété de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a racheté au prix fort, la vie de son Fils unique. Et pourquoi est-ce que Dieu l'a fait ? La fin du verset 9 nous le dit. C'est « afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière ». Si Dieu nous a rachetés, ce n'est pas juste pour nous racheter. Dieu nous a rachetés afin de nous confier une mission. Il s'est constitué un peuple qui parle de sa grâce, un peuple qui vit sa grâce, qui rayonne de sa grâce dans ce monde perdu. C'est pourquoi il est si important que l'Évangile réforme et transforme, renouvelle tous les domaines de nos vies, y compris nos relations fraternelles au sein de l'Église. Alors ne perdons pas courage, car même si la vie dans ce monde peut être difficile, comme on le verra dans la suite de cette épître, de cette première épître de Pierre, nous sommes en sécurité dans la main de notre Père Céleste. Parce qu'en nous unissant à Christ, il a fait de nous des pierres vivantes, un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple racheté. Que voulez-vous de plus ? Que ces vérités nous réchauffent notre cœur et nous gardent confiants, non pas en nous-mêmes, mais dans la bonté, la souveraineté, la main de Dieu qui nous a unis à son Fils jusqu'ici. Amen.